Alors, je vais prendre un certain nombre de précautions oratoires et solliciter l'indulgence de mon auditoire, puisque je suis, je dirais, aurébilienne que de manière très occasionnelle. Et le travail que je présente aujourd'hui s'intègre, je dirais, dans un travail d'ensemble sur la lecture de la littérature du XIXe siècle comme ce que j'ai appelé une littérature publique. Littérature publique qui verrait dans des fictions de la prostitution, dans les personnages de prostituées, des répondants allégoriques ou des situations qui allégorisent ce nouveau régime médiatique et public donc de la littérature. Donc ma réflexion sur Barbet, aujourd'hui, elle s'intègre dans un ensemble de réflexions sur de nombreux auteurs du 19e, sur le dépouillement d'un corpus de presse assez important, mais j'ai peur qu'il y ait un certain nombre d'implicites, finalement, dans ce que je vais présenter aujourd'hui par rapport à des éléments que j'ai pu travailler par ailleurs. Alors, je vais quand même, bien sûr, revenir sur une introduction un petit peu générale, tout d'abord, sur ce que j'entends par littérature publique et sur le point de départ de ma réflexion qui a été une métaphore. Tout est parti, en effet, d'une métaphore qui hante les discours du journal dans les années 1830 et qui est celle de la prostitution littéraire, qui désigne à la fois l'exposition de l'écrivain, il se place devant, hein, pro statuere, qui veut dire exposé aux yeux, et qui désigne également sa vénalité. Elle est rare au XVIIe et au XVIIIe siècle, et elle connaît un pic dans les années 1830 et 1840, on comprend d'ailleurs très vite pourquoi, avant de devenir un véritable cliché, jusqu'aux années 1920, où elle se maintient encore sous la plume d'auteurs qui voient, tel Valérie Larbeau, dans l'exploitation médiatique de la figure de l'auteur, et en particulier des biographies, une forme moderne du déshonneur auquel est condamné l'écrivain. Elle s'actualise dans les années 1830-1840 déjà, dans des micro-récits journalistiques. Elle est reprise, bien sûr, dans les imprécations des journalistes contre la critique vendue ou contre les feuilletonistes à succès. Et elle appartient donc à ce que Guillaume Pinson a désigné, dans un bel essai, l'imaginaire médiatique. Cet imaginaire du journal est volontiers axiologique. Il y a ainsi des journalistes purs, non payés par les directeurs de théâtre, ni attachés à régler leurs comptes, par exemple, et tous les autres qui, au contraire, prostituent leurs plumes et leur âme pour se mettre au service des puissants. Illusion perdue, on s'en souvient, dresse, à la fin des années 1830, un tel panorama ordonné très nettement en deux pôles, le cénacle d'un côté et, je cite Balzac, les lupanars de la pensée de l'autre. Cet affichage axiologique est d'ailleurs subverti en grande partie chez Balzac par le discours préfaciel qui va accompagner les différentes éditions d'Illusion perdue, mais cet affichage axiologique, cependant, n'en demeure pas moins latent dans la longue lignée des romans du journaliste, comme il s'en rencontre encore à la fin du siècle. La chute dans le journalisme fait l'objet d'un véritable psittacisme jusqu'à Félicien Champsaur, notamment dans Dinah Samuel. Toujours, la prostitution y est à la fois métaphorique, un poète vend sa plume, et réelle. Il est l'amant d'une actrice ou d'une cocotte et vit donc indirectement des revenus prostitutionnels, étant en quelque sorte prostitué par compagne interposée. Et le journaliste se trouve, je dirais, tout naturellement conduit à fréquenter les filles avec lesquelles il semble éprouver une secrète affinité, dans lesquelles il voit des sœurs. Parvenu des lettres comme elle l'est de l'amour, ils sont naturellement appariés comme les débitants, l'un de son esprit, l'autre de son corps, et par là même complémentaires, présentant de surcroît une instabilité sociale, une mobilité sociale comparable. On le voit encore très nettement dans un roman comme Nana, où le couple Nana et Fauchery, journaliste au Figaro, fonctionne bien avec cette même mobilité sociale et comme fonctionnerait un couple frère-sœur. Alors cette actualisation narrative de la métaphore se complète dans la presse, de toute une série de procédés rhétoriques, au premier rang desquels l'antonomase, souvent accompagnée d'une connotation héroïcomique, qui consiste à désigner l'homme de lettres, par, ou la prostituée d'ailleurs, par une référence historique. Elle est, ou il est, une Laïs, une Aspasie, une Phrynée, une Ninon de l'Enclos, une Marion de l'Homme, ou il est un arétin, figure qui réunit, notamment sous la plume de Philaret de Châle, prostitution et chantage. Dans cette galerie, c'est aujourd'hui donc Aspasie que j'ai choisi de convoquer, car elle figure sous la plume de Barbet, à plusieurs reprises, pour qualifier l'écrivain à succès, le romancier à succès, en particulier Eugène Sue, mais aussi pour qualifier l'écrivain femme, Michelet, en particulier, dont on parlait à l'instant. Alors, cet emploi de l'antonomase est intéressant à plusieurs titres. Bien sûr, dans le contexte journalistique, il manifeste d'abord la connivence culturelle que cherche à établir celui qui l'utilise avec son lecteur, tout en lui permettant bien sûr d'éviter la désignation proprement injurieuse qui serait celle de « fille des rues », ou plus convenable, mais tout de même, de « courtisane ». Il permet de plus, cet emploi de l'autonomase, d'inscrire une micro-histoire qui est celle du personnage lui-même et des anecdotes qui lui sont attachées. Laïs, maîtresse de nombreux philosophes et femmes d'esprit, mais célèbre également pour son avidité, Phrynée, se dévoilant devant ses juges, etc. Enfin, lorsqu'il s'agit d'une courtisane, bien sûr, cet emploi de l'antonomase inscrit sur le plan du genre une évidente féminisation de l'écrivain auquel elle s'applique. Être traitée d'Aspasie, on en conviendra, même si celle-ci fut la compagne de Périclès, auquel, selon la légende, elle servit de conseillère politique, n'est pas précisément flatteur. En revanche, être comparé à Phrynée peut être un éloge. Il y a ainsi un Michelet qu'on méprisait, je cite Barbet, pour ses idées et qu'on aimait pour son talent, comme Phrynée, dans un article de Barbet paru dans le Constitutionnel en 1869. Parce que alors, Phrynée est une figure de la vérité. C'est Phrynée se dévoilant devant ses juges, qui est alors convoqué. Pour finir, cette narrativité que porte la figure constitue le point de passage vers la fictionnalisation de la métaphore sur laquelle je travaille. La prostitution littéraire s'actualise en effet dans des récits de la vie d'une prostituée, dans l'évocation des lieux qu'elle fréquente et dans les contrats temporaires qu'elle conclut. Invitée très souvent à conter son histoire, fréquemment dans les récits du second XIXe siècle, elle accède ainsi, en outre, à un statut narratorial qui n'en fait donc pas une simple victime de la société ou une fille folle de son corps, mais lui confère le pouvoir, en surplomb, de mettre en ordre sa vie pour lui donner un sens. La littérature de fille, puisque c'est le terme qu'on va appliquer à cette littérature à la fin du siècle, qui va connaître une véritable explosion sous le Second Empire et la Troisième République, certes, repasse par les légendes antiques que j'ai rappelées, légendes antiques d'ailleurs sur lesquelles Barbet lui-même ironise dans un article qu'il consacre à un ouvrage d'Auguste Debay, Laïs de Corinthe et Ninon de l'Enclos, article paru dans Le Pays en janvier 1856. Elle se souvient donc, cette littérature de filles, des légendes antiques. Elle s'inspire également de figures historiques plus proches, donc Ninon de l'Enclos, Marion de l'Homme, Lady Hamilton, dont Barbet envisage un temps pour sa part d'écrire la biographie, car, confie-t-il à Trébuchien, elle m'a toujours beaucoup plu. Mais c'est bien souvent ces légendes antiques ou ces légendes historiques, pour les détourner ou les retourner, par l'ironie, qu'elles sont utilisées par l'écrivain. On sait comment un romancier comme Zola se plaira ainsi dans Nana à figurer ce qu'il appelle la vraie fille contre la galerie des prostituées rédimées par l'amour de la littérature romantique. Cette littérature de filles invente également de nouvelles figures, en particulier la Dame aux Camélias de Dumas fils en 1848. Alors il y a donc une constante ironique, le traitement d'une tradition, la mise en jeu d'une intertextualité, qui n'est sans doute pas à négliger, mais le jeu ne suffit pas à justifier, il me semble, cette inflation de fiction de la prostitution qu'il convient plutôt de rattacher à l'entrée dans ce qu'on a pu appeler l'âge du papier, c'est-à-dire au développement massif de l'imprimé à partir du Second Empire. La visibilité accrue d'une catégorie de professionnels de la plume, les transformations du marché de la librairie, du fait en particulier de la naissance de la littérature sérielle à l'initiative d'Hachette, l'invention de la presse à un sou, le petit journal de Moïse Millau est fondé, je le rappelle, en 1863. Bref, l'émergence de la culture de masse en 1860, dans les années 1860, est, il me semble, une des principales raisons de cette multiplication des fictions de la prostitution. La prostitution interviendrait, c'est donc mon hypothèse, à ce titre, comme un complément de cette figure du saltimbanque, de l'histrion, du pitre, autrefois si magnifiquement étudié par Jean Starobinski dans un célèbre essai « Portrait de l'artiste en saltimbanque ». Il me semble que la prostituée doit également donc être considérée comme un répondant allégorique de l'artiste ou par métonymie, puisque bien souvent le produit est mis pour le producteur et l'œuvre pour l'artiste, une figuration de son œuvre. J'aimerais donc aujourd'hui interroger chez Barbet la relation entre son discours critique dans les années 1860 et la réalisation narrative, la scénographie de ce discours. Lui qui a, comme d'autres, Gautier par exemple ou Vallès, connu le partage de l'écrivain journaliste, comme l'a étudié Marie-Françoise Montaubin, qui sait donc, Barbet, qu'il faut être un homme public et rendu public par le journal pour vendre ses livres à un éditeur, ne pouvait donc que scénographier, il me semble, à sa manière, dans la fiction, la condition de l'homme de lettres sous le Second Empire. C'est ainsi donc à une relecture socio-poétique de la grande nouvelle de la prostitution qu'est la vengeance d'une femme que je voudrais m'engager. Alors, après donc ce préambule, je voudrais revenir tout d'abord sur le discours de Barbet, en particulier dans les ridicules du temps, sur la presse, sur la réclame, le règne de la publicité, sur la chronique. On connaît donc les imprécations de Barbet contre la presse, contre la critique, qui d'ailleurs, je le cite, n'existe point en France, car elle est complètement étrangère à notre temps, demeure lâche et d'individualité mesquine. Et c'est particulièrement dans les années 1860 que ce discours atteint une virulence, il me semble, inouïe, et de manière assez frappante, parce que bien souvent le propos de Barbet paraît relever d'un combat d'arrière-garde. Quand Barbet, en 1867, s'en prend à ce qu'il appelle la trompette de la publicité, il ne dit rien, en effet, de particulièrement neuf. Je le cite, « Alors, de critique qu'elle était, la critique tombe à n'être plus qu'une publicité. Elle change son flambeau en trompette, une trompette à fanfare, toujours prête à sonner pour tous ceux qui ont pris le soin de se mettre bien avec elle. » Relevant de l'autoréférentialité tout à fait caractéristique de l'écriture journalistique, qui ne cesse de parler d'elle-même et de se mettre en garde contre ses propres dérives, semblable déclaration entre en résonance finalement avec un discours qui est présent dès l'insertion des annonces à la quatrième page des journaux, en l'occurrence dans La Presse et Le Siècle, à partir de 1836. À partir en effet de cette date, l'assimilation du journal à une boutique devient un véritable cliché. On connaît notamment la confusion entre la réclame de librairie et le feuilleton critique, cela a été récemment étudié par Marie-Ève Terenti, à la fois en termes de place dans l'espace de la page du journal, donc entre la réclame de librairie et le feuilleton critique, en même temps qu'en termes de position pour l'homme de lettres qui rédige l'annonce de librairie ou le feuilleton critique. On sait aussi, à partir des travaux de Judith Lioncamp, comment le feuilleton roman s'est mis à occuper la place, toujours dans l'espace de la page, du feuilleton critique, là encore, ce qui tendait à dénier à la critique son magistère critique, justement. En tout état de cause, donc, cette collusion entre diverses formes de discours, commerciaux, critiques et littéraires, est déjà patente et dénoncée comme telle dans les années 1830. Elle est également déjà scénographiée, déjà incarnée, en particulier dans un certain nombre de personnages de fiction. Alors les journalistes impurs d'Illusion perdue, bien sûr, ou Finot, qui est un journaliste de théâtre, qualifié par Rastignac dans La peau de chagrin de proxénète littéraire, et qui va écrire des prospectus pour la confiserie Le fidèle berger, avant de lancer L'huile céphalique de Birotteau, en même temps que d'essayer la voie du théâtre. En 1853 encore, Edmond Martin écrit « Le journalisme offre aujourd'hui moins de journalistes que d'entrepreneurs de publicité. Autrefois, un journal était une tribune. Qu'est-ce qu'un journal à notre époque ? Une boutique. » C'est exactement ce que dit nettement à propos du feuilleton roman. C'est dire que la critique est elle-même prise dans la publicité. Et lors même qu'elle se veut véritable critique, voire donne dans l'éreintement, elle concourt donc involontairement au bruit fait autour de l'œuvre et par là même contribue à ce qu'on appelle le puf. Comme l'écrit Barbet dans un article recueilli dans Les Ridicules du Temps, puisque dans ce singulier monde de la publicité, c'est le bruit qui est tout et non ce que le bruit signifie, il convient, je poursuis, de savoir se taire et de ne pas ajouter par la critique une voix de plus au concert ou à la cacophonie. Le silence tendrait ainsi paradoxalement à devenir la meilleure critique. On voit donc comment est-ce que Barbet en vient dans les années 60 à finalement affirmer qu'il vaut mieux que la critique disparaisse, puisqu'elle ne peut qu'être du bruit. Alors, si cette condamnation par Barbet de l'invasion de la réclame n'est pas neuve, ce qu'il est davantage, c'est sans doute ce qu'il en tire, c'est ce qu'il en infère. Et en particulier, la domination de l'infime, de l'anecdote, du détail, de l'indiscrétion, que dégage longuement et finement le journaliste Barbet pour l'attribuer, la mettre en relation avec ce règne de la réclame. Et certains genres journalistiques, dit-il, sont plus infectés par la réclame qui prend les traits du cancan, du potin ou de l'anecdote. Et la chronique en particulier paraît uniquement vouée à la publicité en même temps que consignée dans les territoires du minuscule. À propos des chroniqueurs, bien sûr, il convoque Barnum. On est en 1866. Les chroniqueurs, écrit-il, sont les rois du journalisme. Pour eux, Barnum crèverait une de ses caisses et ouvrirait l'autre. Et en même temps, il définit la chronique, la chronique est une pouilleuse de petits faits dans une littérature qui semblait atteinte de la maladie pédiculaire. Rongés donc par cette vermine de commérages et de cancans qui les a dévorés, les chroniqueurs crèvent présentement comme Antiochus et Sylla, c'est-à-dire d'une infection généralisée causée par les poux. Or, pour Barbet, la chronique a contaminé la littérature, comme elle a englouti la biographie et dévore désormais le journal qui va y périr. C'est dans Les Ridicules du Temps. À une époque plus prochaine qu'on ne croit, le journal qui aura tué et dévoré le livre cessera lui-même d'être un journal. Le petit fait le rongera. Ce sera son insecte, ce sera sa vermine. Comme le lierre qui dégrade les murs sur lesquels il s'étale, la chronique grimpera à toute page du journal et couvrira tout, entrelacé d'annonces et de réclames, qui sont aussi de petits faits, mais de petits faits d'un grand rapport. Alors, plus de doctrine sur rien, développée ou soutenue, à quoi cela servirait-il ? Mais des cancans de clubs ou de coulisses, des indiscrétions de vie privée ou de chambre à coucher, et comme la médisance elle-même tend à mourir dans cette société aplatie de tout, même de bec, on priera, messieurs les domestiques, de laisser voir les appartements des gens riches ou célèbres, et nous aurons des descriptions de commissaires-priseurs et des inventaires ou des mémoires de tapissiers. Se profile ici l'esthétique réaliste. Les mémoires de tapissiers, c'est une métaphore qu'on rencontre fréquemment chez les détracteurs de Flaubert, de Feydeau, pour résumer finalement l'esthétique réalisme à la description, à la liste, à l'inventaire, aux mémoires de tapissiers. Se profile donc ici l'esthétique réaliste, ces interminables descriptions qui font saillir l'inessentiel, qui bombent l'atome comme le dit Barbet à propos de Flaubert, qui liste et énumère des choses. Le matérialisme, bien sûr. Le roman, y compris le roman hugolien, c'est de L'homme qui rit qu'il s'agit, est de même parcellisé, car tout y est, je cite Barbet, plaqué. Faiseur par pièce, et par morceau, Hugo ne fait qu'aligner en 3 volumes des faits paris quelconques, racontés avec la platitude ordinaire des faits paris. Au minuscule s'ajoute donc le morcellement. Ce que décèle donc Barbet, cette maladie pédiculaire, ce sont l'annonce publicitaire et l'indiscrétion de la chronique qui en sont les responsables. Les objets des chroniqueurs, c'est-à-dire ce que Barbet appelle les chroniqués. Les chroniqués, et on est là dans une dénonciation de ce que nous appelons aujourd'hui la pipolisation, les chroniqués sont en effet les nouvelles étoiles du jour, qu'il s'agisse de femmes du monde ou d'écrivains. Je cite Barbet. Cette fureur de vivre de la vie publique, de jeter son nom sur le tremplin des journaux, ce besoin d'être remarqué, caractère des courtisanes de toutes les époques, et qui tente à devenir celui de l'honnête femme de France, a sauvé la chronique aux abois et à l'agonie, et a fait relever leurs plumes épuisées aux chroniqueurs. Ce fonctionnement en circuit fermé, qui n'est pas sans rappeler celui de la camaraderie littéraire des années 1830, est de plus en plus dénoncé comme une forme donc de prostitution double, au sein de laquelle la prostitution a autant les traits de la chroniquée, bien contente qu'on parle d'elle, que ceux du chroniqueur, ce journaliste qui, dans le petit journal de Moïse Millau, dans le journal à un sou, gagne des sommes considérables, ou qui est l'odalisque du sultan, qu'est le public. L'indiscrétion consiste à exposer ce qui devait être tu, publicité au sens premier du terme. Elle permet également de mettre en vedette les grandes et petites figures de la vie parisienne, publicité au sens second du terme. Des deux côtés, profit et donc prostitution. On sait comment les Goncourt, à la même période, ont dégagé le sens politique de cette prostitution. C'est dans leur grand roman de 1860, Les Hommes de Lettres, qui devient en 1868 Charles de Mailly. Les Goncourt font le diagnostic suivant. Ils montrent que c'est 1851 qui est responsable de tout. La presse, muselée sous le Second Empire, a été condamnée à délaisser les grands sujets, c'est-à-dire les questions politiques, pour se replier sur l'anecdotique, le quotidien, le cancan, la chronique. Et elle s'est donc condamnée, je cite cette fois les Goncourt, à tout ce qui diminue en un mot l'honneur de chacun dans la conscience de tous. On peut donc établir sans doute un parallèle entre les deux diagnostics, celui proposé par Barbet dans les discours du journal et celui exprimé par les Goncourt dans le roman. Précisément, le roman propose l'antidote. Et on va voir comment Barbet, de son côté, cherche l'antidote dans la fiction. La narration, en effet, se doit d'élaborer des contre-feux en scénographiant ces situations de prostitution. Exposition de la fille, amorce, échange sexuel, paiement, autant d'étapes obligées dans le parcours que proposent les fictions de la prostitution. Plus profondément peut-être, nos récits, celui de Barbet qui m'intéresse, mais d'autres également, reposent sur une poétique de la séduction et de la suggestion qui informe profondément leur poétique. Il semble en particulier que la pratique du teasing, c'est-à-dire de l'aguichage, telle que le XXe siècle a paru l'inaugurer dans les campagnes publicitaires étalées sur plusieurs étapes notamment, structure bien des récits du second XIXe siècle, dans une poétique de l'effeuillage qui cherche à maintenir le désir du lecteur jusqu'à la révélation finale. Et c'est à des prostituées comme de juste que ce type de rôle est d'abord réservé. Alors on connaît chez Barbet les procédés plus subtils sans doute et qu'il théorise en particulier dans sa correspondance de l'entrebâillement, du dévoilement partiel, qui serait donc plus efficace que d'une part la grosse caisse de Barnum, qui trouverait au contraire un équivalent littéraire dans l'exposition continue, dans la répétition, ou que son envers, le silence du critique dont je parlais tout à l'heure, qui aurait un équivalent, cette fois, dans l'emploi de la litote et de l'ellipse. La technique du dévoilement narratif, telle que Barbel le théorise au sujet de ses récits et de l'effet qu'il souhaite leur voir produire, n'a de prime abord d'autre visée que l'effet esthétique et peut-être aussi théologique. L'entrevision, selon l'expression de Philippe Berthier, est bien la clé. Alors s'il s'agit pour Barbet de bâtir ainsi une poétique suggestive, selon laquelle finalement, comme chez Baudelaire, la profondeur de l'infini se perçoit mieux dans le resserrement ou l'entrebâillement, il convient aussi d'y voir plus simplement un procédé narratif, d'abord destiné à produire cet effet sur le lecteur et à le happer. La duchesse de Sierra Leone en fournit, il me semble, un bel analogon dans La poursuite de la prostituée, dans une ruelle obscure, la rue basse du rempart, puis dans l'introduction du client dans une vraie chambre de fille, ensuite dans le déshabillage de celle-ci et enfin dans la révélation qu'elle lui fait. La surenchère érotique de cette nouvelle n'est que le hors-d'œuvre de la confession de la duchesse. En suivant cette fille en jaune, Robert de Trécigny s'engage dans une aventure où il entraîne le lecteur. Et on serait d'ailleurs tenté de voir d'abord dans les pièces d'or que laisse d'emblée le client le prix pour l'histoire. Une histoire qui deviendrait ainsi une marchandise qu'il convient de régler pour accéder au vrai. Je cite La vengeance d'une femme. « Ah, la fille du boulevard était alors entièrement effacée. On eût juré d'un masque tombé et que la vraie figure, la vraie personne reparaissait. » Les pièces d'or que le dandy jette dans la coupe de cristal de la prostituée payent donc pour la passe et pour l'histoire. Que nous apprend cet échange tarifé ? Malgré les pages brûlantes qui lui sont consacrées, ce n'est pas la prestation sexuelle qui est au centre du récit, mais le récit de la duchesse. Ou plus exactement, la confession de la prostituée ne prend tout son sens et toute son efficace que parce qu'elle se fait entendre sur ce fond-là, l'intérieur d'une fille de bas étage qui exerce ses talents sur le boulevard du Gand, et parce qu'elle est placée dans la bouche de ce personnage oxymorique, duchesse et fille. C'est donc le dispositif de la séduction de ce dandy blasé par cette fille-là qui agit comme relais de la séduction du lecteur. Un lecteur auquel rien n'est épargné, ni le risque et la tentation de l'ordure, cette ruelle infâme, cet escalier ignoble, la peur, ni le déshabillé de la courtisane qui la rend, je cite, plus révoltamment indécente que si elle eût été franchement nue, ni les étreintes redoublées et farouches qui font croire à Trécigny qu'elle aime son métier et le fait avec passion, bien qu'elle a un penchant particulier pour lui, qu'il va taper dans l'œil. Aucun doute, il en a pour son argent, et ajoutons, le lecteur aussi. La narration prend donc ici les traits de la belle courtisane qui est à la fois vulgaire et grande dame. Toutes les ressources de l'obscène, me semble-t-il, sont employées par le romancier, de la description du physique puissant de cette nouvelle Judith à l'évocation de sa hennissante ardeur, je cite Barbet, sans oublier la référence à cette nouvelle citation, statuette indescriptible exposée chez tous les marchands de bronze du Paris d'alors et sur le socle de laquelle on ne lisait que ce mot mystérieux « Madame Husson », qui a beaucoup interrogé la critique, dont une variante nous apprend qu'elle représente une femme nue enveloppée dans une écharpe de dentelle noire et qui n'a gardé de sa toilette du soir que des bas roses et des bottines de maroquin rouge à talons. Certes, cette fille est publique, et Trécigny songe à tous ceux qui la veille, le lendemain, voire dans l'heure suivante, vont s'étendre dans cette couche. Je cite « le premier venu, comme lui ». Ce premier venu, c'est l'homme de la rue. C'est n'importe qui, c'est le lecteur de ce journal omnibus, qui est le journal du Second Empire. Mais tous ces clients ne sont pas également attentifs. La plupart passent à côté de cette fille sans écouter son histoire, se contentant en somme de la prestation sexuelle qui fonctionne là comme préliminaire, sans s'intéresser à l'essentiel, son récit. Il existerait donc des distinctions entre les consommateurs ou clients auditeurs. Comme les lecteurs, donc tous ne se valent pas. D'aucuns se contentent du plaisir éphémère de la lecture, mimé en somme dans les ébats des deux amants d'une heure. D'autres s'intéressent à ce que dissimulent ses ardeurs. Reprenant son argent pour ne laisser qu'une pièce de 100 sous à la demande de la duchesse, Tressini garde en effet en lui le souvenir de ce qu'il appelle un chef-d'œuvre, ce chef-d'œuvre de vengeance qu'elle lui a présenté, je cite, « tête à tête, avec les impressions et les souvenirs d'une soirée que son esprit ne pouvait s'empêcher de savourer, comme un poème étrange et tout-puissant, auquel il n'avait rien lu de comparable, ni dans Byron, ni dans Shakespeare. » Ni dans Shakespeare, pardon, ses deux poètes favoris. Double de l'auteur, la duchesse prostituée signe son œuvre. Il y a deux inscriptions importantes de son nom. D'une part sur sa carte de visite, qui figure sur la porte de sa chambre, mais aussi, bien sûr, dans cet épitaphe final, où sont énumérés son nom et ses titres, Sigi, Sanzia, Florinda, Concepcion, de Touré Cremata, duchesse d'Arcos de Sierra Leone, fille repentie, morte à la Salpêtrière, le Riquescat in passé. Il fallait oser, dirait Barbet, écrire un tel récit dont le lecteur saisit bien la profondeur métaphysique, le mal, la vengeance, sans en percevoir nécessairement aussi la dimension sociopoétique. La fille y est à la fois, en effet, à la fois un double de l'auteur et une figure de l'œuvre. Le journaliste Barbet, qui n'a de cesse de dénoncer le bourbier du journalisme, toutes les formes du cabotinisme, c'est de quoi il parle. Quant à la lecture, elle est placée sous le signe du désir et de sa réalisation, ce qui finalement correspond à une tradition dans la représentation de la lecture du roman comme l'activité lectorale, comme substitut d'une activité sexuelle. S'esquisse ici donc un portrait de l'écrivain en aspasie. Le récit déploie une allégorie de la littérature en régime médiatique, dans laquelle ne manque pas même le prix modique de l'imprimé. Les 100 sous qu'il donne à la fille correspondent peut-être à ce sou qu'on donne désormais pour acheter le journal. Mais sans que cette entreprise de séduction que recèle la vengeance d'une femme soit pour autant assimilée à un abaissement. Barbet, je l'ai rappelé, ne cesse en effet de dénoncer la publicité, l'américanisation d'une société prise au piège de Barnum, mais la prostituée qu'il campe est une, je cite, « gladiatrice » qui va combattre, une « panthère » qui met une véritable rage à se rimer en teint et à accomplir son métier, à moins qu'elle ne soit une sorte de dandy engagée dans une ascèse pour se pourrir, mais pour pourrir méthodiquement son corps et souiller ainsi le nom de son mari. Pas de complaisance désolée donc, mais la volonté de combattre sur le terrain même de la publicité de l'histrionisme avec les armes mêmes de la réclame. La fille met la même énergie à faire l'amour et à narrer son histoire. L'énargueia est à la fois érotique et rhétorique. L'effet de miroir recherché entre l'activité sexuelle et la narration et ses effets confirme la dimension autoréférentielle de cette nouvelle, non qu'il s'agisse de mener une lecture qui dégagerait ici l'autotélisme de ce récit, mais de voir comment ils sont questionnés et mis en récit l'acte même de communication et ses conditions. La publicité, cette porte basse, comme l'écrit Barbet dans une fameuse lettre à Trébucien, comme la rue basse du rempart, où Tressini suit la fille en jaune du boulevard, la publicité est la condition de cette communication et le régime dominant. Cette publicité, il faut donc l'outrer par le scandale. On sait que Barbet y est fort bien arrivé puisque le recueil des diaboliques a été poursuivi. Il faut l'outrer par le scandale pour la retourner contre elle-même, ce dont toute l'œuvre aurébillienne pourrait d'ailleurs témoigner. À l'exemple de la duchesse qui choisit de publiciser sa mort honteuse, puisque c'est même là le but qu'elle poursuit, l'écrivain doit donc mener la réclame jusqu'à son point extrême, qui est le scandale. Comme Barbet écrit dès 1850 à Trébucien à propos du dénouement du dessous de carte, il est bon même, parfois, que le scandale ait lieu. S'opposant en effet au béguelisme et, je cite, aux hypocrisies encravatées du protestantisme, il affirme au timide Trébucien que la littérature est morale lorsqu'elle est vraie et que l'artiste seul crée une réalité en la peignant. Ce sont ces éléments de la lettre à Trébussien qui vont être repris dans la préface de 1865 à une vieille maîtresse. Le scandale est d'ailleurs, et plus trivialement, si l'on en croit une lettre à Elisabeth Bouillet après le procès des Diaboliques, le plus sûr moyen d'atteindre une belle vente, même si, note-t-il, ce sont ces chiens de libraire qui en profitent, et de pouvoir envisager une seconde édition. En fait, la seconde édition se fera attendre pour les Diaboliques jusqu'en 82, mais Barbet espérait qu'elle intervienne plus tôt. Alors, est-ce que c'est là être une Aspasie ? Un Eugène Sue, qui fut, selon Barbet, dans sa veine pittoresque, dans la veine pittoresque d'Eugène Sue, hein, une Aspasie insolente, falbala, zébouriffon, crinoline millionnaire. Et dit-il, devenu, victime qu'il est de son désir de popularité et de son goût du tapage, converti au socialisme, et il a perdu son titre de courtisane pour n'être plus que Laurent le Magnifique, donnant à boire et à manger aux imaginations phalanstériennes. Il y a donc pour Barbet Aspasie et Aspasie. C'est le scandale seul qui justifie finalement la prostitution et le bruit. C'est lorsque la réclame atteint son point de rupture qu'elle acquiert une dignité que n'atteint jamais le bonimenteur ou le barnum, parce que le scandale, lui, inscrit une durée que la publicité du journal, éphémère par essence, empêche. De plus, la féminisation qu'implique la référence à Aspasie ne sied pas à l'écrivain génial. Ainsi, Michelet, qu'on a vu tout à l'heure comparé à Frinet pour le dévoilement de la vérité, est Aspasie lorsqu'il fait, à partir de l'histoire, science mâle, des fantaisies ou des fables. Je cite, « S'il doit jamais laisser une école, ce sera, on a cité, Julie a cité cette école tout à l'heure, l'école du fantastique dans l'histoire. Seulement Monsieur Michelet créera-t-il une école ? Nous ne le croyons pas. Aspasie doit être stérile. C'est une Aspasie en effet. L'âme a son sexe et Monsieur Michelet n'est qu'une femme. Être juste, être grave, être digne sont réellement des qualités d'homme et qui ne les a point manque évidemment de virilité. Monsieur Michelet, qui est amusant intellectuellement, n'a rien d'un homme. L'Aspasie gladiatrice est en effet une figure virile, on l'aura compris. Tandis que l'écrivain à succès, celui qui est femme, et en l'état, on peut mettre dans le même sac Michelet et le cueilleur de muguet qu'est Octave Feuillet, dans l'étude qui lui est consacrée, celui qui est femme a en effet dans la pensée les qualités féminines qu'il faut pour réussir dans ce temps énervé. Par l'énergie combative dont elle est douée, l'Aspasie combattante s'oppose donc à ces écrivains copies, atteints de ce que Barbet appelle ce communisme littéraire, dont il parle à propos d'Hector Malot et d'Erckmann Chatrian, ou encore d'Eugène Sue, dont les inventions, je cite, furent presque toutes des copies, sans évoquer ce qu'il appelle cette émulation de redites qui vient égratigner un ouvrage de Saint-Marc Girardin. La virilité du scandale est donc rare. Elle est en tout cas toujours singulière et signe l'écrivain. Le principe romantique de l'individuation que Barbet cherche à restaurer prend donc les traits de la prostituée combattante, tandis que l'écrivain fille cette Aspasie sans grandeur et lui voué à la répétition. On trouvait sans doute dans l'allégorisation de la réclame sous les traits d'une duchesse fille, dans un récit saturé de références à la prostitution, un cas limite. Il est pourtant frappant de constater que bien des œuvres de cette période, de la fin du Second Empire, peut-être plus encore des débuts de la Troisième République, travaillent ce type de représentation. Soit qu'elles s'attardent sur des réclames, des affiches, des chroniques à l'intérieur des récits, comme autant de clins d'œil adressés aux lecteurs sur les usages publicitaires, soit qu'elles mettent en scène ce qu'on appelle alors depuis une pièce célèbre « les filles de marbre », en les opposant aux honnêtes femmes, généralement d'ailleurs pour mieux les apparier, ce qui est un véritable topos satirique qui hante aussi bien la scène que le journal et le roman, soit encore qu'elles cherchent à renverser la réclame sur elles-mêmes, comme le fait Barbet dans cette nouvelle. Les œuvres réfléchissent donc le règne de Barnum et en proposent l'antidote. Il s'agit toujours d'en revenir à la singularité, de poser ce qu'appelait tout à l'heure Tressigny, le tête-à-tête. Affirmation d'une subjectivité d'un côté, qui permette de ne pas être un dossier plumitif voué à la littérature sérielle, et affirmation également d'une subjectivité du côté du lecteur. Barbet, qui vit cette forme de prostitution qu'est l'inévitable banque de ses articles pour publier de la vraie littérature, a pris très tôt la mesure de ce métier de fille de rue, dont parle Balzac dans une lettre peu avant la Révolution de 1830. Mais il s'agit aussi de poser une exemplarité qui, dans les diaboliques, on le sait, joue à plusieurs niveaux. La publicité, en effet, et paradoxalement, n'est pas indispensable à l'âme forte qui sait, il s'agit de la duchesse, comme l'écrit Didier Philippot, atteindre, dans la destruction suicidaire, une création paradoxale. La duchesse, en effet, retient sa vengeance, dont on sait qu'elle repose sur la divulgation. En l'occurrence, divulgation, sa carte de visite dont je parlais tout à l'heure, et le texte de son épitaphe. Affirmant à Tressigny, et quand il, c'est-à-dire son mari, ne le saurait pas, reprit-elle un corps redoublant d'éclairs sur son âme, moi, après tout, je le saurais. Je saurais ce que je fais chaque soir, que je bois cette fange et que c'est du nectar, puisque c'est ma vengeance. Est-ce que je ne jouis pas, à chaque minute, de la pensée de ce que je suis ? Mais elle raconte à chacun de ses clients son histoire. Divulgation donc en tête-à-tête, qui restitue à son récit intimité, singularité, et maintient donc une relation entre deux individualités, comme le fait la lecture. La fille publique, c'est donc être privée. Le véritable artiste serait, pour Barbet, peut-être, cette fille médusante, qui condamne celui qui contemple son chef-d'œuvre au silence et au retrait, et lui imprime définitivement sa marque. On sait ce que devient Tressigny après cette soirée. Je vous remercie.